ailleurs. Voilà, je me remets là. Bien. Alors, ce soir, nous attaquons, dans le peu de temps qui nous reste, au niveau des valeurs, en étant tout à fait conscient que ce qu'on croit influence fortement notre manière de se comporter. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte qui font partie de nous. Et on dit bien, on pense, on transmet, on met ses valeurs au niveau de nos enfants aussi. Et eux, ils vont effectivement agir en conséquence. Donc, on va revenir ce soir pour regarder un peu plus étroitement au niveau des valeurs des familles. La nouvelle tragique, c'est que nous sommes en train de préparer une génération qui vont finir leur vie sourde et probablement mourir plus tôt d'un cancer de la peau ou peut-être d'un diabète, mais avec des bons dents. Les bons dents, oui. Parce qu'on les a appris à soigner leurs dents, n'est-ce pas? Tout ça on fait deux fois par jour, même de flosser. Tout ça, on a appris, on passe. Mais les autres choses, beaucoup moins. On boit des litres et des litres des boissons sucrées. On les envoie facilement dans des endroits, même nos églises, avec des décibels qui sont bien plus hauts qu'on peut supporter pour un certain moment. Et on est devenus des adorateurs du soleil avec des conséquences évidentes et néfastes. Et quelque part, ces valeurs, nous les passons aussi à nos enfants, n'est-ce pas? Ce sont des choses que nous rattrapons plus tard, parce qu'on ne les voit pas tout de suite. Nos valeurs sont souvent comme ça. Sur le moment, on ne pense pas que c'est grave. Plus tard, on dit, ah, si j'avais pensé un peu plus, j'aurais agi autrement. Parce que ce n'est jamais nos souhaits de passer quelque chose de mauvais pour nos enfants, n'est-ce pas? C'est toujours nos souhaits de les passer quelque chose de bien. Mais parfois, on se trompe et en essayant de faire quelque chose qu'on pense qui est bien, en fait, on fait quelque chose qui n'est pas aussi bien que ça. Donc, on a besoin de remettre ce pendule à l'heure. Alors, c'est toujours une question de dire, voilà, où est-ce qu'on va? Vous vous souvenez, on a parlé de cette vision à long terme de nos familles, de dire, OK, qu'est-ce qu'on aimerait accomplir? Et à dire vrai, quand on commence, on ne sait vraiment pas comment ça va finir. On ne peut que regarder un peu autour de nous pour regarder. J'ai eu quelqu'un cette semaine qui m'a dit, mais franchement, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez fait pour que vos enfants sortent comme ça? Et moi, je dis, mais franchement, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vos enfants ne sortent pas comme ça? Voilà. On ne sait pas. On sait très difficilement les résultats de tous les facteurs. Et c'est trop simple de dire, mon enfant ne va pas bien, c'est ma faute, ou mes enfants vont bien, bien pour moi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les facteurs d'influence sont nombreux et on ne peut pas tout contrôler. Mais il y a certaines choses qu'on arrive à faire et d'avoir une certaine vision à long terme. Donc, si vous voulez que vos enfants ne meurent pas de diabète, vous pouvez agir aujourd'hui pour rectifier le tir. Donc, c'est possible de les apprendre à boire de l'eau, à veiller sur la quantité de sucre qu'ils ingèrent, de prendre soin d'eux-mêmes et d'avoir un bon exercice physique pour bien compenser. Ce sont des choses qu'on sait très bien qui luttent effectivement contre cette fléau de diabète. Alors, parfois on dit, c'est trop difficile, j'ai plus l'énergie, je ne peux pas lutter sur tous les fronts. Oui, c'est vrai, mais on peut essayer de voir à long terme. C'est un peu comme si on fait de la peinture à la maison. On est en train de préparer les choses pour un résultat final. Je vous donne un exemple un peu plus personnel. Ça, c'est ma voiture le jour que je l'ai achetée. Je l'ai achetée comme ça. Oui. C'était bien parce que ça m'a coûté 5000 francs moins cher en achetant comme ça. Et je dis, mais pourquoi acheter une voiture qui n'est pas abîmée pour l'abîmer soi-même? On a mis le temps de l'acheter déjà plié, comme ça, on n'a pas de souci. Mais en fait, c'est superficiel. Mais si je veux que ça se répare convenablement, il faut un tout petit travail de fond. Je ne peux pas juste mettre une couche de peinture et voilà. Il faut quand même préparer un peu les choses, soigner un peu la couleur, regarder et finalement mettre un bon vernis pour que ça sorte bien. Ce n'est pas compliqué, mais c'est un travail avec une vision de long terme. C'est exactement ce qu'on fait au niveau des enfants. Donc nous avons en principe des souhaits pour nos enfants. On aimerait évidemment qu'ils s'en sortent bien au niveau éducation, intelligence, sport et toutes ces choses. Mais en fait, tout ça, on contrôle beaucoup moins. Donc, voilà, si l'enfant est tout à fait normal au niveau de son QI, on ne va pas beaucoup booster ça en faisant beaucoup de choses. C'est normal. La plupart des gens tombent dans la moyenne. C'est normal. Les statistiques sont comme ça. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'ils grandissent avec un sens de valeur et de cœur qui fonctionne d'une manière droite, n'est-ce pas? Oh, c'est pas tellement grave si notre enfant ne fait pas son quatrième doctorat. C'est pas si grave que ça. Par contre, s'il vole, s'il tue, c'est grave. Ce sont des choses qu'on ne souhaite véritablement pas. Donc, il y a des choses qu'on dit, mais voilà, on aimerait que nos enfants deviennent des personnes qui sont capables de bénir des autres avec un cœur droit, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille à ça. Donc, on doit poser des questions. Pour nous, dans nos familles, quelles sont les priorités? Comment est-ce qu'on peut les mettre en évidence? Par exemple, est-ce que la question de l'argent est une priorité ou pas? J'ai lu un article cet après-midi concernant les congés paternels. Certains pays en Europe pratiquent le congé paternel depuis un long moment, surtout les pays nordiques, donc Norvège, Suède, etc. Ils ont un bon système. Ici, en Suisse, voilà, ça commence juste. C'est parfois possible, mais les résultats de la situation d'un congé paternité, de paternel, est très positif. Donc on remarque bien qu'un père qui était prêt à arrêter son travail pendant quelques semaines à la naissance de son enfant, tisse des liens avec l'enfant qui durent pour un bon nombre d'années pendant sa vie. Et tout ça, c'est extrêmement positif. Des pères qui n'ont pas la possibilité, surtout ça veut dire financièrement, c'est principalement le facteur, on ne peut pas juste s'arrêter de travailler. Ceux qui ne peuvent pas, effectivement, il manque cette occasion de tisser des liens et les effets sont plus négatifs. Donc on voit très bien que notre système de valeurs, où on le place, si on voit à très long terme, peut-être on va dire, je prends 2 mois de congé non payé, ça me mettrait dans une situation un peu difficile au niveau argent, mais à long terme, je suis gagnant. C'est probablement une logique qui pouvait tenir la route. Nos relations avec ceux qui sont autour de nous, nos familles proches, nos frères, sœurs, oncles, tantes, voisins, quelle priorité on met là-dedans? J'étais très frappé il y a bien des années en travaillant dans les rues et en abordant des personnes qui étaient principalement des personnes sans domicile fixe, qui dormaient ailleurs, etc. de me rendre compte le nombre de ces personnes, quand je parle avec eux, qui disaient très bien, ah oui, j'ai de la famille, j'ai des personnes que je connais, mais je ne veux pas aller chez eux. Pourquoi? Parce que la relation est cassée. Ces gens-là ne sont pas à la rue parce qu'ils sont abandonnés. Ils sont à la rue parce que relationnellement, ça ne fonctionne plus. Et c'est clair que dans une moindre manière, d'avoir des relations cassées, c'est toujours difficile. Donc, le plus que nos enfants ont des relations fluides et qui fonctionnent, le plus que ces choses vont être plutôt simples. Donc, ce sont des valeurs. Et effectivement, on dit, voilà, les gens, ce qui arrive chez nous, ce qui frappe à la porte à un moment pas forcément prévu, si on est bienvenu, comment est-ce qu'on les accueille? De quelle façon? Et quel exemple est-ce que ça donne pour les enfants? Et de quelle manière, finalement, on tisse ce lien vraiment social? C'est notre capital social qui fait, dans la plupart des cas, notre capital de vie. Ce n'est pas tellement l'argent, sont nos relations, la manière qu'on les gère. Donc, on veut qu'en grandissant, nos enfants tiennent certaines de ces attitudes, n'est-ce pas? On aimerait bien à l'école imaginer qu'ils ont des bons copains, qu'ils tissent des bonnes amitiés. On ne peut pas toujours le contrôler. On a toutes sortes d'éléments imprévisibles dans nos écoles et parfois nos enfants passent par des situations compliquées, difficiles, même je dirais abusives. C'est complexe. Mais on souhaite que, en tout cas si c'est le cas, ce n'est pas parce qu'eux ils ont provoqué quelque chose de mauvais ou retiré parce qu'ils ne savaient pas gérer la situation. Et on veut qu'ils aient une relation avec Dieu. C'est de nouveau relationnel, n'est-ce pas? Si on n'a pas des relations avec des autres, probablement on a aussi de la peine de garder une relation avec Dieu, n'est-ce pas? Ces choses, on cultive. Donc, on pose la question, voilà, dans le fond, si je regarde ma famille, si je regarde ce qu'on fait, si je regarde nos habitudes, nos manières de faire, notre générosité, notre hospitalité, nos pardons, nos manières de gérer les conflits, nos façons de parler de nos voisins ou de notre famille quand ils ne sont pas présents, quelle valeur est-ce que nous transmettons à nos enfants? Moi, j'ai eu mon fils en Skype hier soir. Il est en Amérique pour l'instant. Il me parle de son frère. Il me dit, mais qu'est-ce que tu penses de lui et ce qu'il fait là et là? Et moi, je dis, je trouve qu'il faut que tu lui demandes, toi. Qu'est-ce que tu veux dire, moi? Je ne vais pas commencer à raconter, en absence de l'autre, une avis comme ça. Même qu'ils sont des frères, sont tous les deux mes enfants. Mais je garde une sorte de retenue et de valeur au niveau de l'intimité de l'individu. Et donc, j'aimerais bien que chaque enfant peut imaginer qu'il peut me dire quelque chose et je ne vais pas juste le raconter aux autres. Je trouve que c'est important. C'est une valeur, quelque part, qu'on instaure au niveau des familles. Donc, quelles sont les valeurs qu'on transmet? Et est-ce que les valeurs que nous avons maintenant sont en désaccord avec ce qu'on pratique? C'est-à-dire, on dit quelque chose, mais en fait, nous faisons une autre. C'est assez simple dit, hein? C'est comme la petite histoire du petit Johnny qui est là. Et donc, lui, il est à la cuisine. La maman lui attrape et lui attrape en train de prendre des biscuits qu'il lui avait dit de ne pas prendre. Et Johnny, il dit, non, 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 je n'étais pas en train de prendre des biscuits, j'étais juste en train de voir. Et la maman dit, mais c'est un mensonge, dans cette maison, on ne ment pas. Et à ce moment-là, la porte sonne. Elle regarde, la porte sonne. Et elle regarde par la fenêtre. Elle dit, oh non, c'est ce Madame Bader. Vite, tu vas lui dire que je ne suis pas là. On pratique trop facilement le contraire de nos principes théoriques, n'est-ce pas? Sans se rendre compte, bien des fois. Et donc, on a besoin de s'examiner. Et parfois, les enfants même illuminent la lumière, n'est-ce pas, sur nos vies. On se voit autrement. Donc, quelles sont les valeurs? Nos amitiés, le fait de rire des situations ou de rire ensemble, de servir, de prendre le temps, de pas uniquement se servir, nous, d'un verre de quelque chose à boire, mais aussi de demander aux autres s'ils aimeraient quelque chose, de pouvoir encourager, de se réjouir avec l'un ou l'autre qui a réussi quelque chose et de ne pas se sentir menacé par la réussite de quelqu'un d'autre, de savoir accueillir, autant accueillir en hospitalité que d'accueillir des situations difficiles. Voilà, quelqu'un a passé un mauvais moment, quelque chose de triste, voilà, il a perdu son téléphone. C'est triste, ça arrive régulièrement aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on accueille un tel événement? De quelle manière on le fait? Toutes ces valeurs-là sont intégrales au niveau de nos situations. Donc, à la page 23 du manuel, on a une toute petite liste des choses. Et je vous invite à regarder cette liste. Et après, on discute quelques minutes. Je crois que c'est 23. Oui, ça commence le 23 et ça finit le 24. On regarde la liste et on pose la question. Est-ce que ce valeur-là est valable pour moi? Est-ce que je le pratique? Après, tu peux tourner à la personne à côté et dire, mais quelle valeur était importante pour toi? Est-ce que ton voisin a une ou deux valeurs de haute priorité et sont lesquelles? Ça correspond aussi pour vous? Si le voisin c'est le mari ou la femme? Ça. C'est vrai que certaines choses restent toujours en tête de liste. Une de ces choses, surtout qu'on essaie d'obtenir de nos enfants, c'est l'honnêteté. Bon, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais on aimerait bien qu'ils disent correctement ce qu'ils ont à dire. Mais ces choses-là viennent du cœur, n'est-ce pas? Donc, dans les psaumes, on lit ce verset, « J'enfuis ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » C'est un bon verset, mais finalement, il faut aussi avec nos enfants, quelque part, pouvoir le faire. Quelles sont les valeurs? L'année passée, dans un camp d'été, on a fait l'exercice pendant la semaine de mémoriser les 10 commandements. J'ai bien souvent trouvé qu'on parle avec les gens et ils disent « Ah oui, si tout le monde uniquement gardait les 10 commandements, ça serait bien. » Mais si je pose la question « C'est quoi les 10 commandements ?» Ils sont incapables de les citer. Donc, si on ne peut pas les citer, c'est difficile de les intégrer, les utiliser, n'est-ce pas? Donc, je trouve que c'est bien de regarder certains principes de base. Trop de principes, ce n'est pas utile. 10, ce n'est pas mauvais, finalement. C'est un nombre abordable. Et on garde ça dans nos cœurs. Bon, en fait, on le garde dans nos têtes, mais quand nos têtes donnent un coup d'adrénaline, on le sent dans le cœur, n'est-ce pas? C'est là que donc on fait l'association. Et dans la Bible, voilà, on a à peu près 500 références au niveau cœur qui se réfèrent au niveau du comportement de l'individu. Donc quelque chose qui sort du cœur, effectivement, on l'utilise de la même manière. On dit, mais voilà, ça influence nos comportements. Et on parle d'un coup de cœur, n'est-ce pas? On se rend compte que parfois, nos ressentis peuvent bien dominer sur notre intellect. On dit froidement, ah non, c'est trop cher, mais on l'achète quand même, parce que voilà, c'était ce qu'on cherchait. On dit que la différence, une des différences, en tout cas, entre la femme et l'homme, c'est que l'homme, ou la femme en tout cas, est capable d'acheter beaucoup de choses qu'elle n'a pas besoin, qui sont moins chères. Et l'homme, effectivement, au contraire, est tout à fait capable de tout simplement dépenser plus d'argent pour la chose qu'il souhaite. Et voilà, on fonctionne un peu différemment. Donc, on crée dans nos enfants une sorte de bibliothèque de référence pour que les valeurs, les attitudes, les comportements fonctionnent. Et chaque fois qu'ils sont face à une situation, l'idée c'est qu'ils puissent retourner, piquer dans cette bibliothèque pour trouver la valeur ou les valeurs nécessaires pour faire face à la situation. Et ce qu'on se rend bien compte, c'est que bien des fois, ces réponses ou ces valeurs ne sont pas toujours naturels, n'est-ce pas? Donc, bien des fois, notre instinct naturel, c'est de se fâcher ou de garder quelque chose pour nous. Notre instinct naturel face à quelqu'un en confrontation n'est pas de bénir. Face à quelqu'un qui essaie de nous piquer quelque chose, n'est pas de donner. Mais en fait, la Bible nous instruit de fonctionner de cette façon. Il dit, mais voilà, Jésus nous explique, si quelqu'un va prendre quelque chose qui est à toi, tu lui donnes encore un deuxième. On ne fonctionne pas beaucoup comme ça, au niveau social, n'est-ce pas? Donc il y a bien de ces principes de réagir avec un esprit opposé, on trouve bien au niveau biblique des valeurs, mais franchement, on le pratique peu. Et en conséquence, on le partage peu. Donc, pendant que nos enfants sont jeunes, on a véritablement la possibilité d'inculquer un certain nombre de valeurs qui vont, un peu plus tard, commencer à refuser. Donc, un enfant qui a 2 ans, 3 ans, on peut très, très facilement lui prendre avec nous pour faire certaines choses, pour aider, pour servir, pour apporter des choses aux dons, aux gens, même de donner de l'argent dans la collecte, il le fait très volontiers à ce moment-là. C'est tout un jeu, ce n'est pas un problème. Un peu plus tard, il résiste. Oh mince, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais on a l'occasion d'inculquer certaines choses, et ça, c'est très bien. Ça va revenir plus tard dans sa vie, parce qu'il a déjà expérimenté. Et ça, c'est très bien. Donc, on a toujours la difficulté de dire, ok, est-ce que mes réactions que l'enfant observe sont les réactions que je souhaite chez lui? Alors, chez lui, c'est un petit problème. C'est un copain qui a piqué son jouet et lui se fâche parce qu'il n'a pas encore arrivé à l'âge de comprendre la collaboration sociale. Donc, c'est mystérieux pour lui. Mais effectivement, il nous voit aussi le moment qu'on se rend compte que quelqu'un a piqué le paquet qui était dans notre boîte à lait le matin et que ce n'est plus là, et on est super fâché, on dit « mais je vais les tuer si je les trouve ». Voilà, notre attitude aussi communique, n'est-ce pas? Donc l'enfant le voit, il dit « ah voilà, ça doit être la manière de fonctionner ». C'est comme ça que l'adulte, les parents fonctionnent, ça doit être juste. Donc, sans se rendre compte, on est très vite face à des situations où finalement on est en train de raconter des choses, faire des choses, etc., etc., qui ne sont pas véritablement justes. Nos petits mensonges, quelque part sociaux, si on veut, comme voilà, on dit à madame que je ne suis pas là, on entre assez facilement dans ce type de choses. Alors, à distinguer, parce que l'honnêteté, en fait, on sait bien, c'est un pilier de notre société. Si, dans le fond, les gens ne sont pas honnêtes, on ne peut pas fonctionner. C'est très difficile. Donc, par exemple, chaque année, vous remplissez votre formulaire d'impôt. Le principe, c'est que vous le remplissez honnêtement, n'est-ce pas? Parce que si on commence à imaginer que ce n'est pas le cas, on envoie quelqu'un chez vous pour ausculter les choses et de voir ce qui se passe, on est censé déclarer correctement. Donc, notre société est basée là-dessus. Et toutes les fois qu'on trouve que les gens ne fonctionnent plus honnêtement, on est obligé d'employer quelqu'un, un policier, un agent, un bureaucrate, etc., pour contrôler la situation. Ça nous coûte très cher. Je ne sais pas si vous avez jamais imaginé combien ça nous coûte d'avoir toute une police dans nos pays juste pour régler le fait que les gens ne sont pas capables d'être honnêtes. Ça nous coûte bonbon. Et ça rend la vie effectivement difficile et désagréable. Par contre, il faut distinguer quelque chose qui est déshonnête pour l'enfant à quelque chose qui est imaginaire. Les deux choses ne sont pas les mêmes. Donc, c'est tout à fait faisable pour l'enfant d'entrer dans une sorte de monde magique, imaginaire, que quelque part, il sait qu'il n'est pas véritablement là, mais ça fait partie de son expérience. Et pour les enfants, ce n'est pas mauvais. On imagine plein de choses, voilà. On imagine qu'une plaque de chocolat, c'est un avion spatial. Ça ne pose pas de problème pour l'enfant. Il va entrer là-dedans. On imagine que voilà, on creuse un trou dans le jardin parce qu'on va mettre des œufs là-dedans et finalement avoir une petite famille de poussins avec ces œufs. Donc l'enfant, l'imagination, ça tourne bien. Donc vous, vous êtes fâché parce que vous trouvez vos œufs que vous venez d'acheter chez Denner, enterrés dans le jardin, avec l'espoir que ça va faire quelque chose. Donc, et vous dites, il est fou, il est méchant, il ne respecte pas. Mais c'est l'imagination qui tourne. Et finalement, certains de ces trucs sociaux, même ces types de mensonges, on les pratique. À un moment donné, il va perdre un don. Et pour certains parents, ils vont dire, mais voilà, on met ça sous le coussin pendant la nuit. Une dame, elle va venir, elle va le prendre, elle va laisser un peu d'argent. C'est l'imaginaire. Comment est-ce qu'on imagine que la dame va passer par nos portes bien fermées pour éviter que les voleurs arrivent? Et en plus, qu'est-ce qu'elle fait avec ce don? Et pourquoi c'est plus important pour elle qu'une pièce d'argent? C'est l'imaginaire. Mais on entre dedans, et l'enfant aussi, et on se rend compte que ce n'est pas mauvais. Le moment qu'on commence à ôter tout imaginaire de la vie de notre enfant, c'est sec, c'est morose, c'est difficile. On en a besoin, mais on a besoin de faire la part des choses aussi. Et de savoir distinguer ce qui est véritablement un mensonge ou quelque chose qui est véritablement pas vrai et quelque chose qui est tout simplement romantique, imaginaire, ludique, qui fait partie de notre croissance et notre épanouissement. Pas toujours simple de faire la différence, n'est-ce pas? Donc, on place les bonnes valeurs et ça aide nos enfants qui sont confrontés avec des questions éthiques. Donc, ils doivent savoir distinguer ce qu'on vient de raconter entre ce qui est éthiquement passable, l'imaginer dans ce cas, ou éthiquement faux, un mensonge. Mais effectivement, on apprend dans la vie que les mensonges sont utiles. Par exemple, pourquoi j'ai deux fois le même? Bon, ce n'est pas grave, c'est foiré ce PowerPoint. Ça, c'est Nelson. Hein? Voilà. Donc, ce qui manque, c'est le diapo. Il dit, voilà, est-ce que tu crois que j'ai perdu du poids? Et l'un dit, oui, certainement. Et l'autre dit, non. Et voilà celui qui dit non, écrasé. Parce qu'on comprend bien, comme adulte, on intègre l'idée que parfois, de mentir, ça nous évite certaines conséquences. Donc, on le fait. Et on devient étonné que l'enfant, il le fait aussi. On dit, mais où est-ce qu'il a pris ça? Ah, où est-ce qu'il a pris ça? Donc, l'enfant, à un certain moment, assez rapidement, est capable d'entrer dans cette situation de dire, ah, je comprends bien, pour éviter une mauvaise conséquence, j'ai meilleur temps de ne pas dire toute la vérité. Voilà le tangent qui commence. Alors, et surtout parce que parfois, ça commence avec des petites choses, on rigole. On ne se rend pas compte qu'on prépare un terrain un peu plus glissant, un peu plus difficile. Et ce n'est pas toujours simple de distinguer. Donc, dans ces situations éthiques, il faut donner une raison, il faut expliquer certaines choses, il faut pouvoir répondre à des questions de l'enfant, parce qu'il a des vraies questions concernant ce qui se passe, le monde autour de lui, parfois, c'est extrêmement mystérieux, incompréhensible. Et donc, effectivement, même de pouvoir les poser des questions, qu'ils sachent c'est ce que c'est d'être honnête. Qui peut comprendre que de prendre quelque chose qui n'est pas à lui, effectivement, c'est du vol. Mais même là, c'est beaucoup une question de contexte, n'est-ce pas? On sait bien que de prendre un paquet de chips dans l'armoire à la cuisine, sans demander la permission, n'est pas la même chose que de prendre un paquet de chips chez la Migros sans demander la permission. Il y a une différence. Le contexte, ça fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et effectivement, il y a une question de gravité. Certaines choses peuvent avoir une gravité importante. C'est probablement moins grave pour vous que l'enfant a pris un paquet de chips dans l'armoire que de piquer une pièce de 5 francs dans votre porte-monnaie, n'est-ce pas? On fait une différence d'échelle au niveau de la gravité de la situation, sans forcément se rendre compte que peut-être pour l'enfant, c'est l'inverse dans sa compréhension. Il n'a pas compris les choses de la même manière que nous. Donc, et on se trouve avec l'enfant jeune, une fois qu'il arrive autour d'une année et demie, deux ans, on se trouve en train de lui dire régulièrement, fais pas ci, fais pas ça, non, stop, etc. Constamment sur la défensive, pour des choses. Et 6 mois plus tard, une année plus tard, on entend de l'enfant, il commence à dire, non, non, non. Et on dit, tiens, il a pris ça où? Effectivement, on l'y a éduqué. Il faut faire attention. À mon sens, il faut faire attention de comprendre les raisonnements de l'enfant et de dire non un minimum de fois. Bien des fois, l'enfant va faire certaines choses qui nous interprétons en étant méchants ou mauvais, et on va lui gronder, mais en fait, dans sa tête, ce n'était pas véritablement ça. On ne prend pas le temps pour comprendre ce qui se passe chez l'enfant, pour bien saisir l'histoire et de pouvoir expliquer. Et on ne prend pas le temps non plus pour montrer comment faire convenablement. Et bien des fois, c'est ça qu'il faut. L'enfant, il va faire parce que finalement, il ne sait pas. Et parce que nous, on n'a pas expliqué. Donc, nos valeurs sont là dans les premières années. Il ne faut pas les louper. C'est trop simple d'imaginer. L'enfant est petit, il ne comprend rien, ce n'est pas grave. Mais en fait, oui, c'est grave. C'est justement le moment qu'il est en train d'apprendre. En plus, aujourd'hui, on confie nos enfants, parfois à très jeune âge, à des personnes qu'on ne connaît pas, parce qu'ils sont, disons, des professionnels, sans savoir véritablement quel système, quelle valeur, quelle manière de faire, ils vont démontrer. Et donc, à partir de l'enfant, il arrive à les 3 ans, c'est important qu'on ait une instruction positive et pas négative. Il faut quelque chose qui n'est pas répressif. Il faut savoir utiliser la distraction, de pouvoir entrer dans la tête de l'enfant, d'essayer de lui accompagner dans les choses, de pouvoir faire avec lui, de lui montrer des manières de faire. Et comme ça, tout ça, ça devient utile. On songe la motivation derrière le mensonge, on ne juge pas directement un mensonge même. Et on essaie d'augmenter le niveau d'honnêteté. Alors, vous savez très bien, un enfant qui arrive à n'importe quel âge finalement et qui va dire ce qui s'est passé véritablement, si à ce moment-là, on lui gronde, on fait travail à l'envers. Le pire de ces situations, c'est typiquement l'enfant qui n'est pas venu à l'heure à la maison. C'est là qu'on le voit. Il était censé être là à 3 heures. À 3h30, il n'est pas encore revenu. Il a peut-être 8-9 ans, il sait très bien l'heure. À 4h, il n'est encore pas là. Finalement, à 4h30, il arrive. C'est quoi qui se passe? On se fâche. On se fâche avec lui, on lui gronde. Pourquoi on se fâche? On se fâche parce qu'on est préoccupé. On verse notre propre préoccupation et souci sur l'enfant au niveau de gronder. On ne va pas prendre le temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et finalement, peut-être il s'est passé quelque chose de soit grave ou soit difficile pour l'enfant à gérer. C'est entièrement possible. Donc, chaque fois que l'enfant va dire la vérité et nous, on gronde, on met une barrière. On doit savoir accueillir et écouter ce que l'enfant dit, même si ce qui est dit est contraire à ce qu'on pense qu'il a dû faire. Il a dit la vérité, le fait qu'il dit la vérité, ça mérite qu'on l'encourage, même si on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait. Sinon, on va créer une situation du contraire où il va favoriser le mensonge parce que c'est plus simple. Et on ne veut pas ça, n'est-ce pas? Bien, on avance un peu, comme ça on arrive à la fin. Donc, ce que nous cherchons, c'est que l'enfant, dans sa tête, et dans sa tête d'adulte finalement, il a arrivé à un point de dire, je fais ce que je fais parce que c'est juste. On espère quelque part pour chacun, on arrive à ce point. On peut dire, je fais ce que je fais parce que je sais que c'est juste. Mais pas, je fais ça parce que si je ne le fais pas, je serai puni. La répression est toujours difficile à gérer. On peut gérer une personne, même une société, par la répression, mais ça n'aide à rien. Ce n'est pas utile. On aboutit à rien du tout. Donc pour nos enfants, c'est la même chose. Donc on veut bien qu'ils font les choses parce que véritablement, ils peuvent dire c'est juste. Et donc effectivement, ils développent comme ça une écoute à leur propre conscience. Ils peuvent écouter et dire, voilà, j'ai ce sentiment en moi de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, et je peux véritablement fier à ce qui se passe dans mon cœur. C'est important. C'est important. Nos consciences peut-être n'est pas un baromètre à 100%, n'est-ce pas? Parfois, on peut voir quelque chose qui se passe en nous, on pense que c'est juste et finalement ce n'est pas, on pense que c'est faux, on se trompe. Mais voilà, on se trompe tous à un moment donné. Mais si on se trompe, mais on sait qu'on est toujours aimé, ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Et pour l'enfant, c'est la même chose. Il va aussi se tromper. Mais s'il sait qu'il peut se tromper, mais il est toujours aimé, ça fait une grande différence pour lui. Donc on explique, on accorde notre attention et on met que le cœur de l'enfant est quelque chose qui puisse grandir d'une façon véritablement en accord avec les valeurs qu'on aimerait qu'il soit chez lui. On aimerait bien que l'enfant, en devenant adolescent et adulte, est capable d'évaluer et de regarder des choses et de dire, alors ça, je fais parce que c'est juste, ça, je n'entre pas dedans parce que c'est faux. J'ai vu un de nos fils décider, à la fin de son adolescence, de prendre une année sans alcool. C'est pas qu'il buvait beaucoup, mais évidemment, avec ses amis, c'était assez monnaie courante d'être quelque part, de boire une bière ou quelque chose. Il a décidé, voilà, je crois que je dois faire une année sans. C'est une discipline personnelle de faire ça. Et je trouve que c'est très louable de pouvoir dire, voilà, je vais exercer une sorte de contrôle de soi-même sans pointer le doigt aux autres en disant, vous ne devez pas le faire, mais dire, voilà, si je fais, je fais parce que c'est une décision et pas parce que je ne peux pas me contrôler. Et je trouve que cette attitude est bonne. On peut beaucoup faire des choses, quelque part, c'est comme Paul nous dit, n'est-ce pas? Il dit, mais tout est légal pour moi, mais pas tout est utile pour moi. Et donc, le fait de dire, je fais parce que je crois que c'est juste et je me contrôle, c'est très différent que de dire, je fais, mais je pense que je ne dois pas, mais je n'arrive pas à me contrôler. Oh, je ne veux pas aller contre mes amis parce que tout le monde font. La fumée, c'est comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi nos jeunes fument? Tout simplement parce que les autres fument. Et si on ne fume pas, on ne fait pas partie du club. Donc, si on veut être accepté, on doit fumer. Et c'est comme ça que chaque enfant, chaque ado commence. Il n'y a pratiquement personne, s'il n'y a personne, qui commence parce qu'ils disent « Ah oui, j'aime le goût du cigarette. » Les premiers goûts du cigarette, c'est toujours affreux. C'est horrible. Oui. Mais donc, on fume parce que les autres fument. Et ça, c'est un choix de valeur, n'est-ce pas? Donc, on veut les encourager d'avoir des bonnes valeurs, de les modeler nous-mêmes, de les aider à poser les bonnes questions, de savoir prendre un peu de distance, de pouvoir évaluer les choses, d'avoir une bibliothèque de référence avec laquelle ils peuvent faire quelque chose et d'avoir gardé dans leur cœur certaines paroles de fond et de valeur qui font faire référence pour eux pendant leur vie. Si on arrive à ça, on a réussi. On va créer le maximum pour nos enfants. Bon, je m'arrête là. Il y a à la fin de votre petit chapitre en ce fascicule un petit test de conscience. Vous pouvez même prendre 2 minutes pour le faire avant de boire le café. Donc voilà, on le remplit selon l'échelle. Voilà, il n'y a que 12 questions. Et après, on tourne la page. Il ne faut pas tourner la page d'abord. On tourne la page pour voir les résultats. Donc voilà, si vous voulez, vous testez votre propre conscience avant de prendre la pause. Et voilà, on prend une pause et après, on se forme dans nos groupes.